que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Et je commencerai d'abord en vous disant que je partage et écoutez comme chaque dimanche quand nous ou chaque jour que nous nous adressons tous ensemble au Seigneur, on entend les prières, on dit Amen, on entend les louanges, on est heureux. Et je pense que nous avons tous la même pensée, parce qu'elle nous est révélée par la parole de Dieu, à savoir que nous avons, les uns et les autres, en tant qu'enfants de Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Je dis bien l'espérance, parce que quand on regarde la parole de Dieu, il est vrai que Dieu a fait de nous de ses enfants, mais qu'il ne faut pas oublier que tant que nous ne sommes pas dans le ciel, pour y demeurer, nous vivons ici-bas avec l'espérance de la vie éternelle. Mais cette espérance qui est dans nos cœurs nous fait exprimer, et nous avons raison, que un jour, nos yeux le verront. Si, parce qu'il y a une condition, si nous vivons sa parole. Ce qui veut dire que nous sommes chrétiens, nous avons l'espérance de la vie éternelle, mais l'espérance deviendra concrète dans le ciel à partir du moment où nous serons trouvés saints comme le Seigneur le demande. Puisqu'il est écrit, vous le savez comme moi, que tout ce qui rentre dans le ciel sera pur. Ce qui veut dire que la personne qui ne sera pas trouvée sainte ne pourra pas rentrer dans le ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Lisez bien les Écritures. Mais en attendant, nous vivons avec cette espérance. Ce qui veut dire qu'en tant que chrétien, nous avons l'espérance et pour avoir la concrétisation de notre espérance, il nous faut, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, veiller sur notre vie. L'apôtre Paul le dit en ces termes, là je résume un peu, il dira qu'il tient durement son corps pour être conforme à ce que dit la parole. Quand on lit, et vous l'avez certainement entendu ou lu, quand on voit la vie de l'apôtre Paul, elle était pleinement consacré au Seigneur. Depuis le jour où il a eu l'appel sur le chemin de Damas à devenir serviteur ou apôtre de Dieu ou de Jésus-Christ, il n'a pas failli dans son engagement envers Dieu et envers Jésus-Christ. Et il cite même des passages où il a souffert pour rester fidèle à Jésus-Christ et à Dieu. Hein ? Connaissez tous cette situation et ces versets. Ce qui veut dire que, et je vais le dire simplement, la vie d'enfant de Dieu n'est pas une vie facile, mais une vie qui doit être consacrée à Dieu, même dans les temps que nous vivons. Et les temps que nous vivons sont en train de s'enténébrer de plus en plus. Ce qui veut dire que le chrétien aujourd'hui va rentrer dans des temps de plus en plus difficiles. Et la Bible le dit. Dans les derniers temps, les temps seront de plus en plus difficiles. Et seront sauvés ceux qui resteront pleinement fidèles, consacrés au Seigneur Jésus. Et j'ajoute, contre tout et malgré tout. Ce n'est pas uniquement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, au travers des exemples des apôtres, des chrétiens même, qui sont restés fidèles à Christ et à Dieu jusqu'au bout de leur vie, faire don de leur vie pour rester fidèles à Dieu et ne pas renier Dieu dans leur comportement, mais ils lui sont restés fidèles. Alors, je voudrais lire quelques verset de la parole de Dieu, et plus exactement des paroles et d'un message de Jésus-Christ. Et en relisant ce texte et en passant au culte de ce matin, il m'est venu une question: sur quel chemin es-tu? sur quel chemin es-tu ? Alors, pour voir, il faut lire simplement dans Matthieu, au chapitre 7, et au verset 12e, on va lire, je vais prendre le temps, j'essaierai d'être également le plus court possible. Vous avez trouvé Matthieu, chapitre 7, verset 12. Alors, ce n'est pas Monsieur Asquette qui parle, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ça, c'est l'appel. Je continue. Une fois que nous sommes passés par cette porte, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est une image. On sait très bien ce qu'est le feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur » quand ils seront présents dans le ciel, ils diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?» En ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, sur les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus a achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme nous ce matin, comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Amen. J'oserais presque dire, ça se dispense d'explication. C'est assez clair pour que nous comprenions que pour aller dans le ciel, il faut respecter la volonté de Dieu, écouter les paroles de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, cité par le Saint-Esprit, et les mettre en pratique. C'est aussi clair que ça. Vous savez, lorsque nous sommes, ou lorsque nous nous penchons sur la parole de Dieu, Nous voyons que le Seigneur Jésus, au départ, nous parle de deux chemins, un qui est large et un qui est étroit et resserré. Ce n'est pas un chemin spacieux, hein. Il est étroit, l'autre il est spacieux. Beaucoup sont sur le chemin spacieux. Mais lorsque nous étions justement, nous, sur ce chemin spacieux, la parole de Dieu a retenti à notre cœur. Et nous avons saisi et compris que le Seigneur nous plaçait soit devant choix, soit le chemin spacieux, soit le chemin étroit. Et à l'écoute de la parole de Dieu, saisie par l'action de l'Esprit de Dieu, nous avons décidé de prendre le chemin étroit. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui nous a forcés à prendre le chemin étroit. Il nous a révélé le chemin étroit. Et nous avons, nous, pris la décision de rentrer dans ce chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne sera donnée qu'à partir du moment où vous et moi, frères et sœurs, nous obéirons à la parole de Dieu. Et à partir du moment où nous rejetterons le péché de notre vie, ou si vous préférez, à partir du moment où, lorsque le péché se présentera devant nous, que l'on peut appeler tentation, nous rejetterons le péché avec autorité dans le nom de Jésus pour ne pas succomber et perdre l'assurance de notre salut. Le chrétien, quel qu'il soit, ne peut pas faire comme il veut. Le chrétien ne copie pas les pensées du monde. Et le chrétien ou l'Église chrétienne ne laisse pas rentrer les pensées du monde dans son cœur, dans sa famille et dans l'Église. Le chrétien a un chemin sur lequel il a été placé, il est resserré, il est étroit. Et si je fais ce que le Seigneur nous rappelle ce matin par ses Écritures, si je mets en pratique sa parole, alors mon espérance, dans ma fidélité et dans ma consécration, trouvera cette finalité, je recevrai la couronne de la vie. Oui, Paul disait, j'ai combattu à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, à la fin de sa vie, alors qu'il dira tout le long de sa vie qu'il y a l'espérance de la vie éternelle, à la fin de sa vie, avant de mourir, il dira, désormais, la couronne de la vie éternelle m'est réservée. Alléluia pour Paul. Mais alléluia pour chacun de nous. Ce qui veut dire, frères et sœurs, soyons des chrétiens, sérieux. Alléluia. Soyons des chrétiens sérieux. Permettez-moi de dire avec beaucoup d'amour, afin que nous nous comprenions bien, l'Église, ce n'est pas un club. L'Église, c'est un lieu saint. Alléluia. Et si nous manifestons, et nous avons raison, beaucoup d'amour fraternel les uns envers les autres, et combien ça fait plaisir, et nous venons d'en faire une expérience avec vous, de l'amour fraternel, il n'en est pas moins qu'avant toute chose, il faut se respecter les uns les autres et respecter la parole de Dieu et le Seigneur, et faire ce qu'il nous enseigne. Le chemin étroit, c'est un chemin qui nous mène à la vie. C'est le chemin de la vérité. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu cet exemple qui est donné lorsque Jésus va passer par la crucifixion, puis après nous savons qu'il y a la résurrection et la vie éternelle pour le Seigneur, puisqu'il rentre à nouveau dans le ciel de gloire. Il va parler justement à ses disciples de son départ, de sa mort, sa résurrection. Et là, il y a un de ses disciples qui a dit, mais nous ne connaissons pas le chemin. Vous rappelez ce texte, c'est dans Jean. Et pour ne pas me tromper, je vais vous lire la réponse du Seigneur Jésus. dans Jean chapitre 14, verset 6, je la prends, je vous cite pas, j'ai pris dans plusieurs traductions ce que ce matin nous allons voir ensemble. Il est dit ceci: le chemin, c'est moi, dit Jésus, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et je dirais, comme parfois certains professeurs disent, c'est clair, c'est net et c'est précis. Il n'y a plus à discuter, où tu fais, où tu veux pas. Je ne t'ai pas pris de force pour entrer dans le chemin étroit. C'est toi qui y es rentré volontairement. Maintenant que tu es rentré volontairement dans ce chemin, si tu veux avoir la vie, tu fais ce que je t'enseigne, parce que je suis la seule vérité qui peut te conduire à la vie. C'est ça ce que dit le Seigneur. Mettez hors de vous le Seigneur, vous n'êtes pas sauvés. Mais si je mets le Seigneur hors de ma vie, je mets la parole de Dieu de côté, je ne peux pas être sauvé. Ou je peux faire l'inverse. Si je ne vis pas la parole de Dieu, c'est que je mets Jésus de côté. Si je mets Jésus de côté, je mets l'amour de Dieu de côté et je ne pourrai pas être sauvé. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a dit de certains, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et s'ils font naufrage par rapport à la foi, on ne peut pas être sauvé parce que nous sommes sauvés par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de Dieu. Si je mets tout ça de côté, pour vivre ma vie, je ne serai pas sauvé. Je vous fais remarquer qu'entre les deux larges, chemin large et chemin passieux, le Seigneur n'a pas mentionné, large et étroit, pardon, le Seigneur n'a pas mentionné qu'il y avait des médianes, qu'il y avait des chemins qui, un coup, rejoignaient le chemin spacieux, puis un autre coup qui revient vers le chemin étroit. Non, non, non. Ou tu vis dans le chemin étroit, ou tu vis dans le chemin large, car n'oublie pas qu'il est écrit « les tièdes et les vomis de sa bouche ». Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'héritage. Ou tu es pour l'un, ou tu es pour l'autre. Ou tu es avec le Seigneur, et je vais prendre le mot, ou tu es avec le diable. Et qu'il n'y a pas non plus de relation, d'union entre la lumière et les ténèbres. C'est à nous de décider personnellement. Mais nous savons que le Seigneur, eh bien, est celui qui nous sauve. Et d'ailleurs, au verset 24 de ce même texte que nous venons de lire, il est écrit, je le rappelle, dans la traduction de Colombe, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera assemblable à un homme prudent qui a bâti sa vie sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sur l'amour de Dieu. » Alléluia. Et à partir de ce moment-là, nous l'avons lu, « Si j'établis ma vie sur le roc, sur Jésus, sur la parole, si je reste bien ferme sur ce que la Bible m'enseigne, ferme dans la foi, alors mon espérance deviendra réalité. Je régnerai avec Christ pour l'éternité. » Alléluia. Quelle joie pour le chrétien qui reste fidèle. Par contre, il est vrai aussi qu'il est écrit, je ne voudrais pas enlever votre joie du salut, loin de là. Mais il est quand même écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et je suis quand même obligé de dire, je ne sais pas ce qu'il en sera. Mais durant mon ministère, j'ai vu des âmes être sauvées. J'en ai vu qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Et j'en ai vu qui sont encore retournés vers ce qu'ils avaient vomi. Pour certains, je suis encore en relation avec eux. J'essaye de essayer de ranimer la flamme, mais ce n'est pas facile. Chacun aura à rendre compte à Dieu. Mais le chrétien fidèle, celui qui demeure fidèle, c'est sûr, il sera sauvé pour l'éternité. Alors, vivons notre joie de l'espérance. Mais permettons à cette espérance que nous exprimons dans nos chants, dans nos louanges, permettons à cette espérance que cela ne soit pas qu'un mot qui soit galvaudé, mais qu'il soit réel et que je fasse tout dans ma vie terrestre d'enfant de Dieu pour hériter la vie éternelle. Parce que vous savez, quand on lit les Saintes Écritures, et vous en êtes des lecteurs, sur ce chemin étroit, il y a quand même des exigences. Des fois, j'ai la langue qui fourche. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que des fois, et c'est une réalité, c'est depuis mon enfance, j'ai mon cerveau qui va plus vite que ce que ma langue veut prononcer. Alors ça s'embouteillage. Et des fois, j'ai des mots qui sont coupés, des mots qui sont un peu... Mais enfin, j'essaye de me rattraper. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va mieux, mais dans mon temps de plus jeune âge, quoique ça arrive encore, quand je dis à droite, je pars à gauche. Mais enfin, l'essentiel, c'est que vous entendiez la parole. Alors, la parole de Dieu nous apprend à vivre. Par exemple, dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7, je vous lis ça dans Parole vivante. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseigné. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Vous prendrez le temps de le relire à la maison si vous voulez. Colossiens 2, chapitre 2, versets 6 et 7. Ce qui veut bien dire que quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Mais notre direction, c'est de faire ce qu'il veut. Alléluia! En s'efforçant d'extraire ou de ne pas répondre aux désirs du monde. Et même à mes désirs profonds que Dieu connaît et qui sont parfois contraires à la volonté de Dieu. Je les combats au nom de Jésus-Christ afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Alors, quelques versets au fur et à mesure des petits points, et je vais essayer de ne pas trop les commenter pour ne pas prendre de temps, mais beaucoup de lectures. Remarquez, et j'applique un petit peu ce que dit Paul à Timothée, prêche la parole. Ah ben voilà, je prêche la parole. Tout d'abord, la réelle repentance repousse tout péché. Ainsi, dans Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Et je ne sais pas, mais peut-être je me trompe, mais j'entends des personnes qui pensent tellement fort. Elles sont en train de dire, mais ça c'est pour l'Ancien Testament, pas pour nous. Alors si je comprends bien, s'il y a de telles personnes qui pensent ainsi parmi nous, ils disent, l'Ancien, c'est révoqué, le Nouveau, c'est bon, je n'ai pas besoin d'être changé. Comment ça? Dieu l'a dit, et il est toujours le même. Je vous signale que la parole de Dieu demeure éternellement. Et que l'Ancien Testament n'est pas dissociable du Nouveau Testament, même si elle nous parle, entre autres, de l'histoire du peuple d'Israël. La parole de Dieu, elle est pour nous. Et Dieu nous dit, ce que je veux, c'est que tu n'aies pas un cœur dur vis-à-vis de mon enseignement, mais un cœur de chair qui sache écouter ma parole et qui sache la vivre. C'est cela le plus important. Remarquez, vous êtes peut-être, et je le souhaite de tout cœur, vous êtes docile à la voix du Seigneur. Votre joie, c'est de l'entendre vous parler et de ne pas vous y opposer. Vous savez, s'opposer à la parole de Dieu. Je vais prendre juste un exemple, justement dans l'Ancien Testament. Moïse avait transmis le message de Dieu. Sa sœur et son frère viennent pour s'opposer à Moïse, mais plus exactement à la parole de l'Éternel. Et Moïse reçoit ce message. Et voilà que d'un seul coup, l'Éternel va intervenir et il fait comprendre, mais ce n'est pas à Moïse que vous vous élevez, c'est contre moi. Et il va dire à la sœur de Moïse, ben, tu vas sortir du camp parce que je te mets la lèpre. Parce que tu t'es opposé à ma volonté. Mes amis, ne vous opposez pas à la parole de Dieu. Et entre guillemets, je dirais, ne vous opposez pas non plus à ceux qui conduisent l'Église. Parce que ceux qui conduisent l'Église ont été choisis par l'Éternel. Si je m'oppose, j'en porterai les conséquences. Soyons de ceux qui observent la parole de Dieu et qui vivent en paix les uns envers les autres. Et qui disent, Seigneur, parle-nous, parle-moi encore. Mais si je dis au Seigneur, parle-moi et parle-moi encore pour faire ta volonté, que je n'aille pas contester après, parce qu'alors la parole de Dieu nous considère comme des hypocrites. C'est clair. Pourquoi vais-je contester la parole de Dieu? Puisque nous disons si bien dans nos louanges, dans nos prières, dans nos rapports entre nous, Dieu est bon. Si Dieu est bon, j'accepte de ce que Dieu dit, parce que tout ce que Dieu dit, dites-moi-le, il n'y en a que quatre. Merci Seigneur pour les quatre. Dieu est bon. Et il est bon pour notre vie terrestre, mais il est bon parce qu'il nous conduit vers le ciel. C'est cela. Regardez, il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 10, « Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. » Ce n'est pas aux hommes qu'on doit plaire, ni aux dames et inversement. C'est à Dieu, en tant que chrétien. C'est à Dieu. Je dois plaire à Dieu à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Croissez. Qu'est-ce que ça veut dire, croissez? Ce n'est pas le cri de la grenouille. Hein, c'est grandir dans la connaissance de Dieu. Grandir dans son amour, c'est lui plaire, lui être agréable. Et nous savons que nous aurons pour but et pour finalité, si nous demeurons ainsi, eh bien la vie éternelle. C'est le chemin étroit, il n'est pas facile, hein, il est serré. Marcher dans ce chemin, c'est respecter Dieu, c'est avoir l'amour de sa parole, c'est avoir un cœur qui se plaît, pardon, qui se plaît à obéir. Et vivre ainsi, c'est connaître le bonheur. On l'a chanté ce matin. C'est connaître le bonheur. Ce que Dieu veut, c'est le bonheur. Mais tout cela passe le respect, l'amour de la parole et l'obéissance. Ainsi, 1 Pierre 3, versets 10 et 11, parole vivante, « Celui qui veut jouir de la vie et connaître des jours heureux, doit réfréner, je vais le dire, mais je vous dis de suite, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Hein. Doit réfréner sa langue, se garder du mal et cesser de tromper par ses paroles, qui fuit tout ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec tout le monde et lui reste passionnément attaché. Alléluia. Alors, on peut réfléchir, mais je dis que je ne commentais pas, ça serait trop long. Mais qui reste passionnément attaché, on va dire, à la paix, puisque la parole de Dieu nous parle de paix, d'obéissance. Mais quand on obéit, on a la paix, d'en haut, qui remplit nos cœurs. Très simple, Jésus l'a dit aussi. Qu'a dit à ses disciples? Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, où se trouve-t-elle? Dans une relation intime avec lui. Mais cette relation intime avec lui, elle passe par où? Par l'écoute de sa parole et par la mise en pratique de sa parole. À partir de ce moment-là, alors je goûte à la paix divine. Et cette paix m'assure que mon espérance trouvera la réalité. Quand David a péché contre l'Éternel en allant vers cette femme, ça c'est un autre sujet qu'on peut étudier, mais qu'a-t-il perdu? Il va dire lui, rends-moi la joie de ton esprit. C'est-à-dire non seulement pardonne-moi, mais redonne-moi la joie, redonne-moi la paix par ton esprit. Car jour et nuit, cet homme, depuis la mort d'Uri, était un homme tourmenté. Parce que ce lui a été dit. Mais il y a la différence. David, il a péché. Prenons le terme. Il a tout perdu pendant un temps. Il a fallu qu'il fasse le psaume 51, qui est le psaume de la repentance. Maintenant, la même situation s'est produite pour un autre homme du livre de l'Ancien Testament. Il s'appelait Joseph. Un bel homme. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, moi. Mais c'est ce que dit la Bible. Il était beau. Madame Potiphar. Voilà. J'imagine un peu, là. Elle vient le trouver, elle dit, et je prends les termes et vous les relirez. Hein. Et elle va lui dire, couche avec moi. Qu'a répondu Joseph? Qu'a répondu Joseph? Il n'avait pas le Nouveau Testament. Hein. Il avait seulement l'Ancien, la fin de la loi. Eh bien, il va lui répondre, pécherai-je en commettant un si grand péché? Pécherai-je contre l'Éternel? Lequel des deux exemples vous voulez suivre? Lequel des deux exemples je veux suivre? Eh bien, je vais vous dire l'exemple de Joseph. Ne point pécher, ni par le corps, ni par la pensée. Car si vous lisez dans le livre Nouveau Testament, celui qui aura même la pensée de commettre l'adultère a déjà commis le péché. C'est Jésus qui le dit. Et il s'adresse à la communauté en général. Veille sur ton corps, est-il écrit, afin de ne pas pécher contre moi. Ton corps, tes idées, tes paroles, tes pensées, tes actes, veille, afin de recevoir l'espérance, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est un chemin aussi qui se gravit dans l'humilité. J'ai bien fait de venir moi, ce matin, je ne sais pas. Je vais vous dire une petite confidence. Il y a des fois où je me dis, Seigneur, tu veux que je dise ça? Et des fois je dis, j'ai pas envie. Mais alors il me tracasse, entre guillemets, le Seigneur, jusqu'à ce que je dise, eh bien, si tu veux, je veux le faire. Et je tremble. C'est un chemin qui se gravit dans l'humilité. Éphésiens 4, versets 1 et 2, se meurt. Je vous exhorte donc, moi, dit Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, douceur, avec patience. Mais enfin, je vous ai cité ce verset, je crois que vous avez tous les mêmes qualités, c'est-à-dire humilité, douceur et croissance. Croissance, oui, mais surtout patience. Bon. Proverbe 22:4, Colombe. Les conséquences de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Écoutez bien, la gloire et la vie. Vous relirez ça, Proverbe 22:4. C'est ça qu'on reçoit quand on vit dans le chemin étroit et qu'on fait ce qu'il nous demande. Alors on avance. C'est pas facile. Il y a des combats. Combats moraux, combats physiques, combats spirituels. Ça répond pas. Mais je persévère. Merci pour le frère qui a dit Amen, parce que je croyais que vous alliez tous dire Amen. Il y en a qui sont en train de penser, mais c'est ça qu'il nous promet, lui, le frère, là, qui prêche. Moi, je ne vous promets rien, moi, je vous cite ce qui est écrit. Persévère, quels que soient les temps, les moments, les circonstances, persévère. Alléluia. Quelle que soit la circonstance familiale, persévère. Ça vous paraît étrange que je vous dise suivant les circonstances familiales? Alors, je vais vous citer un exemple que nous avons vécu dans notre ministère. Il y avait un homme qui s'est converti, il venait aux réunions. Et alors il venait, le jour où il s'est converti, il ne loupait pas les réunions, il venait une dimanche, tout ça. Mais il avait une épouse qui, quand elle a su qu'il avait donné son cœur au Seigneur, déjà au départ, quand elle se doutait de quelque chose, ça n'allait pas. Et puis de notre foi, c'était difficile. À un tel point que chez lui, s'il voulait lire la Bible, le seul endroit qu'il avait trouvé pour être tranquille, c'était d'aller aux toilettes. Quand il revenait des réunions et que sa femme s'en apercevait, il était reçu à coups de gifle. Ça a duré des mois. Et cet homme-là, chez lui, dans son cœur, là où il était, à l'église, il n'a jamais trop exposé ce gars. Mais il priait, « Seigneur, s'il te plaît, convertis ma femme, touche son cœur. » Ça a duré. Chaque fois qu'il revenait, il avait le droit à sa fessée. Hein. Il n'y avait pas encore le numéro pour dire « Il m'a frappé ». Mais Dieu a vu sa foi. Dieu a vu sa persévérance. Et au bout d'un certain temps, sa femme s'est convertie. Et ils étaient tout heureux de venir ensemble avec leurs enfants en réunion. Alléluia. Il a persévéré. Il n'a pas dit « J'en ai marre de recevoir des coups de ma femme ». Il n'a pas dit « Je vais divorcer ». Non. Il n'a pas dit « On n'est pas marié, je la jette ». Parce que le mariage, c'est réglementé par la parole de Dieu. Entre parenthèses. C'est ça que nous enseigne la Bible. Vivre dans l'humilité. Proverbe 15:33, révérer, honorer l'Éternel, c'est se mettre à l'école de la sagesse avant d'être glorifié ou honoré. Et voilà, glorifié, c'est-à-dire de rentrer dans sa gloire. Alors je dois louer Dieu. C'est le chemin de... Alors, je regarde la pendule. Mais c'est le chemin de la vérité qui cherche la sainteté. Je ne fais que lire les versets. Proverbe 143, verset 8, se meurt. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie ou le chemin que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Donc tous les matins, il faudrait dire, de tout notre cœur, je pense que nous le faisons tous, de dire au Seigneur, c'est vers toi que je me tourne, et enseigne-moi aujourd'hui encore de vivre et de marcher dans le chemin de la sainteté. Alléluia. C'est une demande qu'on peut faire au Seigneur. Le psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, Éternel. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, qui rejette l'orgueil et tout ce que vous voulez, qui vit dans l'humilité, un cœur tout simple. Que je craigne ton nom. Est-ce qu'encore aujourd'hui, enfin j'espère que oui, hein, mais c'est une question. Est-ce qu'encore aujourd'hui, le chrétien craint le nom de l'Éternel? Parce que si on craint le nom de l'Éternel, je suis sûr qu'on enlèverait pas mal de choses de notre vie. Des choses qu'on ne ferait pas. On oublie que Dieu voit tout. Et ce qu'on oublie, c'est que tout le monde aura des comptes à rendre à Dieu sur sa vie. Vous allez me dire, oui, mais on a été pardonné, on a été lavé. Oui, ben oui, c'est bien ça. Mais est-ce que maintenant que tu as été pardonné la vie, le jour de ta conversion et le jour que tu es passé par les eaux du baptême, n'oublie pas que tu as reçu une nouvelle vie. Tu es né de nouveau. Et tu es né pas pour vivre dans le monde, tu es né de nouveau pour vivre pour Dieu. Ça, c'est différent. Si tu passes par les eaux du baptême et continues à vivre comme tu veux vivre, en étant un peu chrétien, un peu païen, enfin en mélangeant le tout, quoi, hein, c'est pas un baptême que tu as fait. Tu as pris un bon bain. Eh oui, parce qu'à partir du moment où je passe par les eaux du baptême, ça veut dire je me consacre. Je me consacre à toi. Je te donne ma vie pour toujours. Alléluia. Alors efforçons-nous de vivre à la gloire de Dieu. Enseigne-moi ce que je dois, comment je dois vivre, parce que je veux te rester fidèle. Je veux te suivre, marcher pour toi et avec toi. Dans Romains au chapitre 6, verset 19, j'arrive à la fin. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car sans la sanctification, là je ferme la boucle, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ne nous imaginons pas, bien sûr je prends des petits exemples qui des fois font un peu sourire, mais c'est très sérieux. Ne nous imaginons pas que lorsque nous allons arriver devant le Seigneur, là-haut dans le ciel en son temps, on va arriver, le Seigneur dit « Alors ça va ? Oui ça va, alors qu'est-ce que tu es ? Ben, je suis chrétien des assemblées de Dieu, c'est bien. Oui regarde, j'ai ma carte, ça fait tant d'années que je suis converti. Ah oui c'est bien, mais pourquoi ta vie a été si pourrie que ça ? Hein ? Vous me dites tout là, le frère il va fort, non ? Vous m'avez tous compris, non, j'espère. Parce que c'est pas moi qui le dis. Hein. Jésus le dit autrement, on l'a lu ce matin. Vous avez bien fait attention au texte qu'on a lu. Certains me diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons même guéri beaucoup de malades en ton nom. Nous avons des choses en ton nom. Et Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou qui avez commis l'iniquité. Ah ah, ah ah, est-ce que ça n'appelle pas des fois à un examen de conscience spirituelle? Ta carte d'adhérent des ADD n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Hein. Ou une autre carte de chrétienne, pas ça qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est de vivre la parole de Dieu, de s'efforcer de la vivre. Alors il est écrit ceci, car Dieu ne vous 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie désordonnée et nous a donné à des pratiques dégradantes. Il nous veut purs et saints comme lui. 1 Thessaloniciens 4 7. Moi je ne fais que citer la parole. Vous voyez, je suis pas sorti de la parole ce matin. Non, c'est à chacun, comme je le dis, c'est son examen de conscience devant Dieu. Eh oui. Bon. Vous en voulez un autre ou pas? Allez, va, ça sera le dernier pour la route. D'ailleurs, je vais vous dire, je vois que sur mes notes, là, j'ai marqué conclusion. Alors, ben voilà, il y en a qui ont dit amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. C'est une recommandation de l'apôtre Paul. Enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui, de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Vous le faites déjà. Vous cherchez à plaire à Dieu. C'est formidable, c'est merveilleux. Alléluia. Vous êtes bon. Non, c'est pas ça. J'ai oublié deux mots. Vous êtes sur le bon chemin. Alléluia. Mais allez de l'avant, de progrès en progrès, afin d'approcher de plus en plus D'après vous, quel est le dernier mot? Deux? Je vais vous dire, comme des fois je dis aux frères et sœurs de Rumilly, nous ne partirons que lorsque nous aurons la bonne réponse. Il y en a qui s'entraînent, il le dit ou il ne le dit pas? Le dernier mot, c'est de la perfection. Soyez donc parfaits comme je suis parfait. Voilà quelques pensées que le Seigneur avait placées sur mon cœur. C'est avec beaucoup d'amour que je vous les ai transmises. Car comme tout serviteur de Dieu, nous aimons l'Église. Et nous voulons la voir progresser, aller de l'avant. Parfois, je l'ai dit, mais je le redis, se remettre en question devant le Seigneur, chacun individuellement, afin que l'Église soit belle aux yeux de Dieu, mais afin que chaque pierre vivante soit belle aux yeux de Dieu, et qu'alors elle porte des fruits à la gloire de Dieu, mais de bons fruits, des fruits agréables, et que règne dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque famille, dans l'Église, règne la paix et la joie du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et il est bon qu'il nous le rappelle. C'est pour cela que ce matin, je vous ai transmis ce que j'ai reçu, mais l'étude, je l'ai reçue avant que je vous l'ai donnée. Seigneur, aide-nous. On peut prier le Seigneur.